On prévoit une accumulation supplémentaire d'environ 2 cm. Ça peut être 5 cm dans le secteur nord. Et mardi, ce sera alternance soleil-nuage avec moins 3 comme maximum. Actuellement, c'est moins 6 à Québec.
Que Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh, que oui, le studieux Sieur de Terrien pour un autre épisode de notre série Bien plus que, avec aujourd'hui Cyril Duquette et Franck Carrel, bien plus que des voix de dessert.
Oui, pas mal plus.
Mais avant mon sieur, je veux savoir, est-ce que tu as été reconnu cette semaine comme sieur de Terrien?
J'ai été reconnu.
Ah hey! Enfin.
Ben, tabarouette.
Quelques minutes après être sorti d'ici.
Sérieux?
Oui.
Il y a quelqu'un qui t'attendait en bas?
Non, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai un emploi d'appoint à la ville de Québec. Je suis surveillant de plateau sportif.
Oui.
Puis j'allais à l'aréna Michel Labadie pour le patin libre.
OK.
Puis quand on fait ça, on est deux surveillants.
Oui.
Alors, le deuxième surveillant, je le connaissais pas. Alors, on arrive, on se présente, on jase. Fais-tu longtemps que tu travailles à la ville? Ouais, ben. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie d'habitude? Alors, moi, je lui dis ce que je fais. Je travaille au FM 93. Ah, il dit, ah, ouais. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais une chronique les fins de semaine. Là, il me regarde.
Ah, ben.
Il dit, c'est toi qui fais la chronique historique? J'ai dit, ben oui. J'ai dit, t'es le sieur!
Il t'a dit ça? Yes!
Wow!
Yes!
Bravo! Je me suis dit dans ma tête, Joe, qu'il vient de faire la journée de Paul Raphaël.
Oh, mais non, mais la semaine, le mois, hey, yes, t'es le sieur.
Là, tu peux te faire faire une carte d'affaires marquée le sieur de Terrien.
Oui, c'est ça, the sire.
Et non, alors, pas Terrien, le sieur.
Non, c'est ça, quand même. Famille, là.
Alors, aujourd'hui, le face-à-face des voies de dessert.
Oui, juste avant de prendre le nom de boulevard Charest à l'intersection avec la Côte-Saint-Sacrement, l'autoroute 40 est flanquée par deux rues portant des noms de personnages importants pour l'histoire de Québec. Avant, c'était Jean Talon Nord puis Jean Talon Sud.
Ouais.
Mais là, avec les fusions, évidemment, il y avait un autre Jean Talon dans Charlebourg.
Oui.
Alors lui, ils l'ont gardé, puis ils se sont dit Jean Talon Nord, Jean Talon Sud, on saute ça, puis on va changer de nom. Alors Jean Talon Nord est devenu Cyril Duquet, Jean Talon Sud est devenu Franck Carrel. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, place au spécial bien plus que face à face des voies de dessert. C'est parti! Alors, Cyril Duquet était un homme aux multiples talents. Moi, je le connaissais pas, là. J'avais aucune idée qui il était. Il a vécu 81 ans, de 1841 à 1922. Il était surnommé le magicien de la rue Saint-Jean. Il est d'abord orfèvre et horloger, mais il a réalisé une multitude d'inventions pendant sa vie, là. C'est vraiment impressionnant. En fait, on disait le magicien de la rue Saint-Jean, mais dans le fond, sa boutique était située sur la côte de la fabrique, juste au coin de la rue Saint-Jean, là. C'est vraiment, là, à l'intersection où la rue Saint-Jean change de nom. Et sa vitrine, c'était une attraction. Toutes ses belles réalisations et ses inventions, là, il mettait ça dans sa vitrine. Puis des inventions, il en a fait à la tonne. C'est lui qui a eu l'idée de concevoir des horloges électriques pour orner les bâtiments. On retrouve ce type d'horloge-là à Québec sur l'édifice du Parlement, l'Assemblée nationale, puis sur l'hôtel de ville, entre autres.
Okay.
Monsieur Duquet a inventé un appareil permettant de noter l'heure exacte du passage des gardiens de gare lors de leur ronde de surveillance. C'est l'ancêtre du bon vieux punch.
Mm-hmm.
C'est une machine à poinçon là, qui notait là, le moment où le gardien, là, dans sa ronde, il était rendu à tel endroit. Alors, pour noter ça, là, il y avait une espèce de punch. Puis c'est devenu, ça a été modifié évidemment par la suite. Mais c'est le punch là, qu'on, quand on rentre à la shop. Là,
c'est lui qui a inventé ça, le punch.
C'est lui qui
a
inventé l'ancêtre du punch. C'est aussi lui qui est à l'origine du combiné téléphonique. Ça, je suis tombé en bas de ma chaise, là. Ce qu'on se comprenait, là, à l'époque, quand le téléphone était vissé au mur, là. L'appareil qu'on prenait, qu'on se mettait sur l'oreille et sur la bouche, là.
C'est pas Alexander Graham Bell Mobilité?
Lui, il a inventé le téléphone. Mais le combiné, là, l'appareil là, qui était au bout du fil, qu'on prenait puis qu'on se mettait ça sur l'oreille et sur la bouche, c'est lui qui a inventé ça.
En comparaison avec l'espèce de cornet, là, un sur l'oreille, l'autre
exactement.
Devant la bouche. Là.
Lui, à un moment donné, il s'est dit, hey, attends un peu, ça, là, on est capable de
mettre ça ensemble.
Ben voilà.
On va coller ensemble.
Fait qu'il a fait ça. Puis d'ailleurs, là, c'est chez lui, à Québec, que l'on retrouve les premiers téléphones. Il y en avait installé un à son magasin qui le reliait à la résidence du gouverneur Spencer Woods, le bois de Coulanges. C'était relié à ça. Et il y avait une fille, lui, qui étudiait au couvent de Jésus-Marie.
OK.
Alors, puis il était pensionnaire là. Alors, lui, il avait une ligne téléphonique de son magasin au couvent. Puis alors, il pouvait communiquer avec sa fille et ses clients qui avaient des filles qui étaient là pouvaient faire la même chose. Ils venaient à son magasin, puis ils appelaient, puis ils jasaient avec leur fille.
Ah, c'est ça, parce que là, le téléphone, il était branché à une place, là. Tu sais, ça s'appelait pas n'importe où avec ça, là.
Puis les filles étaient pensionnaires, j'imagine?
C'est ça, exactement. Okay. C'est pour ça. Alors, pendant la semaine, il était au couvent. couvent. Alors, si tu voulais leur jaser, tu allais au magasin de M. Cyril Duquet, tu prenais le téléphone. Puis
là, tu achetais 2-3 cassins avec ça, c'est la bonne pub.
Ben, probablement. Mais écoute, là, c'était extraordinaire. Là. Tu pouvais parler à quelqu'un avec qui tu n'étais pas physiquement à côté. Là. Mmh. C'était épouvantable. Sauf que son incursion dans le monde de la téléphonie va lui causer des ennuis à M. Duquet parce que la compagnie qui a hérité du brevet de Graham Bell pour l'invention du téléphone lui intente un procès au début des années 1880. Cette compagnie-là s'appelle la Canadian Telephone Company. C'est l'ancêtre de Bell. Elle va devenir Bell par la suite. Elle disait que il avait copié ce que Bell avait fait. Puis, dans les recherches que j'ai faites, on dit que Bell et M. Duquet ont échangé une correspondance concernant les progrès que chacun faisait dans l'invention du téléphone. Sauf que ça n'a pas été retrouvé nulle part, cette correspondance-là.
Okay, ouais.
Ni du côté des papiers de M. Bell, ni du côté des papiers de M. Duquet. Alors, est-ce que ça s'est vraiment produit ou est-ce que les deux ont travaillé en parallèle avec ça? On le sait pas, là. Mais
ils ont peut-être correspondu au téléphone.
Oui, ils ont peut-être juste jasé.
C'était pas sur le papier.
Ils ont peut-être juste jasé par téléphone. Enfin, bref, la Canadian Telephone Company lui intente un procès qu'il perd, mais cette défaite lui coûtera pas trop cher parce que la compagnie est intéressée par les améliorations que M. Duquet a apportées au téléphone. Puis finalement, il y a eu une entente, puis ils ont acheté ses brevets à rabais. Au lieu de lui faire payer une somme faramineuse pour non-respect de brevets, ben, ils se sont dit, garde, on va s'entendre, là. T'as des affaires qui nous intéressent, on va te les acheter, on va se fixer un prix d'amis, puis tout va être réglé comme ça. Alors, ça s'est terminé comme ça, l'incursion de M. Duquet dans le monde de la téléphonie. Il va se lancer en politique municipale à la fin des années 1900, début 1900, là, autour de 1890. Et à l'époque, la ville de Québec connaît une modernisation qui est importante. Entre autres, on électrifie l'éclairage des rues, et M. Duquet est l'élu responsable du projet, puis lui, il y avait des notions en électricité, là, la science, ça l'intéressait. Alors, c'était l'homme parfait pour faire ça. On peut admirer une de ses inventions, un moteur à vapeur miniature qui est au collège de Sainte-Anne-de-Bellevue, à la Pocatière. Pas de Bellevue, mais de Sainte-Anne de la Pocatière.
Ouais, ouais.
Et je sais pas comment ils ont hérité de ce petit appareil-là, qui était très révolutionnaire à l'époque, mais il est là. Alors, on peut l'admirer. La rue Cyril Duquet a reçu son nom en 2006. Comme je le disais tantôt, c'était auparavant Jean Talon-Nord. Les fusions municipales ont forcé la ville à en trouver un nouveau.
OK. Franck Carrel, maintenant. Ouais. Avec l'autre bord de Charest.
Alors là, on traverse Charest. Faites attention, la lumière pour piétons pas très, très longue.
Oui, cette intersection-là, elle casse-gueule un peu. En char comme à pied, en passant.
Ça passe vite dans ce coin-là. Alors, de l'autre côté de la 40, on retrouve la rue Franck Carrel, qui se nommait jusqu'à 2006 Jean Talon-Sud. Franck Carrel est un fils d'Irlandais, imprimeur, éditeur et propriétaire à l'époque du Daily Telegraph, qui est un journal anglophone de Québec. Il y en avait trois à l'époque et les deux survivants vont fusionner pour former le Chronicle Telegraph, qui est toujours en activité aujourd'hui, qui est le plus vieux en Amérique du Nord.
Et on a appris ça il y a quelques semaines à peine.
Oui, quand on avait fait la chronique sur l'histoire des quotidiens à Québec,
exact,
on avait parlé de ça. Alors lui, M. Carrel a vécu toute sa vie à Québec, de sa naissance en 1870 à sa mort en 1940. Il est mort à 69 ans. Et il se sert de son journal pour pousser la ville de Québec vers la modernité. Lui, il a hérité le journal un peu tôt parce que c'est son père qui avait parti ça. Puis il est mort subitement alors que M. Carrel avait 21 ans. Alors, Franck Carrel, à 21 ans, il devient propriétaire d'un journal. Puis comme il a dit lui-même, il dit, faisait 10 ans que je travaillais dans le journal. À compter de 10-11 ans, là, je faisais toutes sortes de petites tâches pour aider mon père. Alors, il savait dans quoi il se lançait. Mais quand même, quand on est propriétaire d'un journal à 21-22 ans, là, c'est quand même assez jeune. Là.
Alexis, 21 ans?
Oui, je pourrais m'acheter un journal.
Tu pourrais t'acheter un journal. Mmh. Il n'y a quelques-uns à vendre pas cher, ça a l'air. Penses-tu,
mettons, que pour... ouais, mais Pierre-Carl, là, il pourrait me les laisser, ces journaux. Mettons, je lui offre 10 000. Il me laisserait-tu ça?
Il pourrait t'en vendre
un. Un journal de Québec.
Il n'y a pas t'en vendre. Peut-être pas celui-là.
Non.
Pour 10 000, non.
Mais là, parce que l'hebdo de l'Abitibi, j'ai rien contre l'hebdo de l'Abitibi, mais... Je sais pas, je réussirai pas à côté. je veux quand même compétitionner, moi, là.
Tu veux quand même compétitionner avec le Chronicle Telegraph?
Je vais m'en partir, un journal de bord.
C'est bon, ça, c'est bon.
François va écrire une chronique historique.
Pourquoi pas?
Commence par un blog.
Un blog?
Oui.
Un vlog, tant qu'à y
aller. Un Skyblog. Alors.
OK. Alors, monsieur Carrel, d'ailleurs, c'est lui qui est derrière la création du carnaval. Ça aussi, je vous en avais parlé quand on avait fait l'histoire du carnaval de Québec. En octobre 1893, notez, il y a seulement 22 ans, cette époque-là, alors que l'économie est mauvaise à Québec, il met au défi les gens d'affaires de mettre sur pied un carnaval d'hiver. Puis il y a quelques-uns, là, dont les moindres, qui vont saisir la balle au bon. Zéphirin Paquette, Jean-Baptiste Laliberté, entre autres. Puis il y aura une édition du carnaval à l'hiver 1894. Il va falloir attendre plusieurs années, là, dans les années 1950, avant que ça devienne annuel. Mais quand même, le premier, c'est lui, Frank Carrel, qui y avait pensé.
Jean-Baptiste Laliberté, comme dans...
J'ai vu la liberté, puis Zéphirin Paquette, comme dans la compagnie Paquette.
La compagnie Paquette.
Maintenant défunt, mais
quand
même. Mais
Zéphirin, là, il manque de prénoms comme ça aujourd'hui.
Ouais, faudrait c'est que triste. Ça revienne, ça, Zéphirin.
Ça s'est perdu. Il y a beaucoup de vieux prénoms qui sont revenus à la mode, mais
pas celui-là.
Pas aussi vieux que ça. Non,
pas celui-là.
Non.
Lui, il résiste encore et toujours
oui,
à l'envahisseur.
Oui, c'est ça.
Puis au même moment là, de la fondation du Carnaval de Québec, là, de l'édition de 1894, M. Carrel publie pour la première fois un guide touristique sur la ville de Québec. Puis c'est un guide qui va rééditer plusieurs fois. Lui, il était vraiment à l'avant-garde et croyait au tourisme en tant que moteur économique. Puis il travaillait fort pour faire rayonner les charmes de Québec. À l'époque, là, on était loin du tourisme de masse. Alors M. Carrel lui avait cette vision-là. Puis entre autres, il est un peu responsable de la popularité de Québec parce qu'il l'a beaucoup moussé grâce à ce guide-là. C'est aussi lui qui met de l'avant l'idée d'un pont pour relier Québec à la rive sud au réseau, parce que le réseau ferroviaire y était sa rive sud.
Oui.
Puis là, Frank Carrel disait, là, on est en train de manquer le train, c'est le cas de le dire.
Ben ouais.
Puis l'économie de la rive sud se développe plus rapidement que celle de Québec, si on veut... Il faut monter dans le train pendant qu'il passe. Alors,
ouais,
c'est lui qui avait... Il y a toujours, là, il y a une vingtaine d'années, là. Il était vraiment
allumé.
Précurseur, allumé pour son âge.
Hey, mais on pourrait donner son nom au troisième lien, d'abord.
Le lien Frank Carrel.
Ben oui.
Le tunnel Frank Carrel.
C'est
une bonne idée, ça. Pas fou, pas en tout.
Non, mais c'est le premier qui voulait un lien, il semble. Ça ferait du sens.
Bravo.
Bravo, oui, ça aurait de l'allure.
Où il y a, c'est quoi, c'est-tu Jean Garon, François, dont tu nous avais parlé, qui lui avait milité pour un troisième lien à l'époque où il était là?
Jean Garon avait-tu milité pour un troisième
lien? Je me souviens pas de ça. Peut-être que je repouille dans mes affaires, mais
je me souviens pas de ça.
Député, peut-être plus député. Ah, peut-être comme maire, ouais. Peut-être que, pas, comme député, je pense pas, mais peut-être comme maire. Ça se peut.
J'avais lu ça dans le... Ouais, troisième lien. Le défunt maire de Lévis était aussi un défenseur. Ouais.
Ah bon?
Fait que c'est, moi, je vote soit Jean Garon ou Frank Carrel. Si on décide de ne pas vendre le nom du tunnel, parce que moi, je continue de militer pour vendre ces noms-là, pour qu'on fasse plus d'argent.
Ouais, mais le problème de ça, c'est qu'il va changer de nom à tous les 4-5 ans.
Tunnel Tupperware.
C'est ça.
Parfait, ça.
En tout cas.
Tant que Tupperware allonge les millions, moi, je le laisse.
Bon.
Alors, donc, le pont de Québec, c'est un peu grâce à lui. 1907, il fait construire un nouvel édifice pour loger son journal à l'angle des rues Buade et du Trésor.
Oui.
Cet édifice-là fait partie d'une série d'édifices qui donnait à l'époque un cachet nouveau à Québec. Lui aussi, j'en ai parlé, là. C'était un édifice qui s'inscrivait dans l'école de Chicago, là, un peu plus moderne à l'américaine. Outre ses entreprises, Frank Carrel est le fondateur du club Rotary de Québec en 1919.
Bon?
Rotary, ça a été fondé en 1905. Alors, lui, en 1919, il lance le chapitre de Québec. C'est un organisme qui vient en aide aux plus démunis. En 1918, il est nommé au Conseil législatif du Québec. Ça, c'était l'équivalent du Sénat pour le Québec. Ça a été en fonction jusqu'en 1968.
Okay.
Ça a été aboli en 1968. Puis c'était un peu comme un sénateur provincial, si vous voulez. Mais c'est un rôle qu'il a pris très au sérieux. Puis d'ailleurs, Frank Carrel a joué un rôle important dans l'adoption de la loi donnant le droit de vote aux femmes en 1940, le droit de vote aux femmes au Québec. Le gouvernement d'Adélard Godbout craignait que les membres du conseil législatif votent contre son projet de loi, ce qui aura empêché son adoption, parce que ça fonctionne comme ça fonctionne au fédéral. Le
genre de veto.
Le Parlement vote une loi, mais si le Sénat dit non, ça marche pas.
Ça passe pas.
C'est rare qu'ils le font parce que le Sénat n'est pas élu, là, mais ça peut arriver. Puis pour le vote des femmes, là, en 1940, ça heurtait les conservateurs traditionnalistes. Alors, c'était pas dans la poche. Puis d'ailleurs, lors des débats qui ont eu lieu quelques mois avant le décès de Frank Carrel, il y a un des membres du conseil, l'historien Thomas Chappet, qui, lui, était conservateur.
Thomas Chappet, bien plus qu'une rue dans Saint-David à Lévis.
Et voilà. Il s'est lancé dans un discours traditionnaliste passionné. Puis Frank Carrel, à la suite de ça, a pris la parole. Puis il a démoli un par un ses arguments. Alors, résultat, le conseil a voté en faveur du projet de loi sur le vote des femmes à 13 voix contre 5. Alors, c'est un peu grâce à M. Carrel, si les femmes ont eu le droit de vote en 1940 au Québec.
Hey, c'est capoté pareil, hein, quand tu penses à ça, avec le recul d'aujourd'hui, des décennies plus tard.
Ah, ça paraît, c'est comme un acquis, là, mais non. À l'époque, là, non.
Les femmes, là, ça peut pas voter, ça. Non! Ils savent pas de quoi ils parlent. Hey, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Hey, c'est vraiment intéressant, François.
Cyril. Et voilà. Alors, c'était le combat, la face-à-face des voix de dessert.
Là, c'est qui gagne? Faut-tu faire un gagnant?
Oh non, non, il n'y a pas de gagnant, là.
Lâche nul.
Ben, en fait, le gagnant, c'est la voix de dessert que vous allez prendre la prochaine fois que vous allez passer dans ce coin-là.
Et peut-être même les deux. Si vous arrivez de la haute ville, vous avez d'affaires au bureau agro, au Tim Hortons.
Aussi.
Il y a un bureau de la SAC aussi, des concessionnaires de chars.
Il y a moins de choses l'autre bord, par exemple.
L'autre côté,
du côté de Carrel.
Du côté de Carrel.
Ben, Carrel, t'as quand même de Robert Bourassa jusqu'à.
Plus proche de Robert Bourassa, il y a de quoi, là.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est, si tu veux, tu sais, moi, j'ai resté proche de Miran pendant 2 ans. Je suis passé par là tout le temps.
Ah, ben oui.
Ouais. Parce que là, tu peux remonter par les petites rues, aller chercher Miran. Puis nous autres, c'était Place Philippe où on restait là-bas. En tout cas, hey, merci François.
Ça fait plaisir.
Super, super intéressant. J'imagine que pour la semaine prochaine, c'est pas décidé encore.
Non, pas encore, non.
Encore le 2 jours, c'est pas de côté.
Non, effectivement, c'est jeudi soir que j'ai pensé à ça. Alors, on verra là. Peut-être qu'on changera peut-être de registre aussi. Parce que dans la série, bien plus que, ça pourrait être bien plus qu'un bâtiment. Il y a des bâtiments à Québec qui ont des noms de personnes qui ont été importantes pour
l'édifice
pour
Price,
le Québec.
C'est qui ça?
L'édifice Price.
Carey Price.
Mais ça, c'est M. Price, ça. C'était pas l'architecte, l'ingénieur qui a pensé à ça, lui.
Non, c'est les Price. C'est les Price. C'est ça. C'est ces Price-là.
Ouais.
C'est eux, là, quand ils ont construit cet édifice-là, c'était leur siège social. Sauf qu'ils l'ont construit juste avant ou pendant la grande déprime des années 1929 et des années 30. La grande déprime ou la grande crise économique, si on veut. Là. Ça leur a coûté cher, cette affaire-là. Il y a l'édifice G aussi. L'édifice Marie-Guyard.
C'est qui ce G?
C'est qui G?
C'est Marie-Guyard.
C'est-tu pareil avec le point, ça? Oh boy.
Okay. On passe à un autre appel.
Il y a un auditeur qui nous rappelle que c'est aujourd'hui que ferme le magasin JB La Liberté.
Ah!
Ça fait un bout de temps que c'est annoncé, là, mais c'est aujourd'hui que ça se passe, malheureusement. Alors, salutations à tous ceux et celles qui y travaillent et qui ont travaillé.
Et à la descendance de M. JB.
Ça a duré 150 ans et plus, ça.
Ouais.
Quand même. 1867, je pense, la fondation.
Oui, quelque chose de même.
Et évidemment, pendant la semaine, si jamais vous... Bon, je comprends que là, c'est le confinement, il n'y a pas beaucoup de contacts. Mais si jamais vous apercevez le sieur